En fait, ça dépend du mentaliste. Il n'y a pas vraiment de définition, il y a plein de définitions qui veulent tout et rien dire. Donc il faut demander au mentaliste en question quelle est sa définition. En fait, il y a des mentalistes qui vont être beaucoup plus dans le côté magie. Donc il y a des magiciens passionnés de magie qui n'ont jamais forcément lu de psycho. Et eux, ils sont mentalistes, mais ils n'ont pas forcément de passion pour la psycho. Et il y a aussi des passionnés de psychologie qui font pas du tout de tour de mentalisme, ils font que de la psycho et ils sont aussi mentalistes.
Le terme de mentaliste est effectivement bien particulier, puisqu'en France, les mentalistes sont plutôt considérés comme des magiciens, comme des prestidigitateurs, où le but, c'est on va dans une foule et en montrant un portefeuille, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sketch, on arrivait à deviner la date de naissance.
Le mentalisme, on va dire, bon, c'est la branche de la magie qui traite des pouvoirs de l'esprit, de ce qu'on peut deviner, sentir, du futur peut-être même, ou ce que les gens pensent secrètement, c'est intéressant comme sujet.
Ce qu'on montre aujourd'hui, donc on appelle ça des profilers, aujourd'hui le profilage, faire un profil d'une personne de différentes manières, on peut utiliser aussi bien l'écriture que moi j'utilise l'analyse, je dirais, morphogestuelle ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours dans différentes situations. Mais pas forcément dans la criminologie.
Pour moi, c'est une branche de la magie. En réalité, personnellement, je ne fais pas de vraie distinction entre les deux, parce que je pense que les deux sont vraiment liés. Et ce qui compte, c'est qu'on arrive à créer ce moment exceptionnel où, vous savez, les gens font « waouh ».
Un morphogestuel, c'est un terme bien particulier qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Vera, qui est, les prémices de ce qu'on appelle aussi de plus en plus comme la science du comportement. C'est comment, en regardant, en prenant en compte une situation, des événements, et en observant la manière dont se comporte une personne dans ces circonstances, on peut réussir à définir aussi bien un profil, ou je dirais plutôt une manière de penser ou une manière d'agir dans quelques minutes.
À mon sens, si je suis devenu mentaliste, tout est une histoire d'émotion. J'ai assisté à plusieurs représentations d'un mentaliste et j'étais complètement bluffé par ce que je voyais. Tout ce que je connaissais déjà de l'art de l'illusion classique ne me permettait pas d'expliquer ce qu'il avait fait. Et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ça a été une sensation tellement délicieuse que je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre aux autres aussi. Et être à l'origine de tout ça, c'est comme quand quelqu'un entend un instrument pour la première fois et il ressent une émotion par rapport à ça. Il a envie d'être le moteur de cet instrument, de se mettre derrière.
On essaie de faire croire aux gens que c'est un phénomène réel. L'idée est, pour moi, de créer une réalité de toute pièce. C'est-à-dire que on va donner l'impression qu'on lit dans les pensées, alors qu'en fait, on ne fait que révéler une information que la personne a bien voulu donner à un moment donné. La plupart des mentalistes vous font croire qu'ils lisent dans les pensées ou qu'ils arrivent à découvrir votre façon de penser, mais ils ne se basent que sur des analyses qui peuvent parfois être subjectives ou qui peuvent parfois relever de la nature humaine ou de statistiques. On est un peu tous prévisibles, malheureusement. On pense qu'on est tous très originaux et pas du tout prévisibles. C'est-à-dire, on est très prévisibles et les mentalistes utilisent ces biais pour faire croire au fait qu'ils peuvent deviner ce à quoi quelqu'un pense ou les influencer à penser quelque chose.
Tu vas simplement demander à une personne de fermer les yeux, de penser à un prénom, celui qu'elle veut, ensuite tu lui demandes de penser à la première lettre. Une fois que c'est fait, tu vas lui réciter l'alphabet, donc A, B, C, D, E, etc. Ou alors tu peux le faire à l'envers si t'es un peu plus chaud, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, etc. L'important, c'est que tu connaisses ton alphabet.
Pense à une musique.
Ok.
Plusieurs fois, tu la répètes dans ta tête. Alors fais le vide dans ton esprit.
Je fais le vide dans mon esprit.
Ouais. Ah, visiblement, c'était très rapide. Alors vas-y, continue, pense à ta musique.
Oui.
Tiens, je te laisse faire une recherche d'une musique.
Ok.
Je vais te demander de prendre un mot, 7, 8, 9, 10 lettres, peu importe.
Ouais, celui-là, il est bien.
Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis le mode chrono. Je vais essayer de deviner la musique, le mot auquel tu penses, okay, le plus rapidement possible.
Ok, vas-y.
Pense à ton mot plusieurs fois, je dirais qu'il y a un E.
Il y a un E, ouais.
Ok, continue à repenser. Il y a un R.
Il n'y a pas de R.
Il y a un H.
Il n'y a pas de H.
27 secondes et 45 centièmes. Bon, est-ce que tu penses que c'est possible que je puisse avoir capté le mot?
Bah, avec ce que tu me dis, non.
Ouais, non, c'est pas possible.
Si t'as réussi à capter, t'es chaud.
Pour moi, c'est le semblant que t'avais comme mot.
Ouais, ouais, c'est ce mot. Ouais.
C'est fort. Pense à la musique plusieurs fois dans ta tête.
Oui.
Est-ce que c'est Claude François par hasard? Comme d'habitude?
Fort! Ah là, très fort!
Non, non,
très
tu vois,
fort.
C'est
ah
ça,
non, très,
semblant.
Très, très, fort. Très, très, très
ah, wow.
Donc, pour trouver cette lettre, tu vas lui demander de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'imaginer vraiment ses pieds sur le sol, d'être ancré sur le sol. Et tu lui demandes aussi, quand tu diras la lettre à laquelle elle pense, de s'imaginer tout à coup décoller, s'envoler très vite dans le ciel, comme si elle était accrochée à un jetpack ou à une fusée, et elle s'envole très très vite, très très haut dans le ciel. Et quand tu arriveras sur la lettre auquel elle pense, Tu verras ses yeux qui vont commencer à se lever, à bouger, et vraiment, même pourquoi pas, son corps se pencher, s'agiter. Tu vas voir du mouvement, en fait, parce qu'elle va être en train de se visualiser, en train de s'envoler. Donc tu peux y aller doucement, vraiment, tu peux vraiment prendre ton rythme A, B. C'est vraiment, faut que tu aies chacune, faut que tu aies le temps de voir, parce que si elle met quelques secondes à démarrer, à s'imaginer en train de monter, tu vas peut-être te confondre d'une lettre et ça change tout, une lettre. Après, ce qui peut se passer, c'est des fois, t'as l'impression d'avoir plusieurs matchs, on va dire. T'as l'impression que la lettre B, la lettre K et P, elles ont marché. Donc, si tu as plusieurs lettres qui matchent et que tu as par exemple un B et un K et qu'il n'y a personne qui commence par aucun prénom qui commence par K, forcément, ce sera plutôt le B qui aura matché.
Mentaliste, c'est un illusionniste qui va donner la sensation d'avoir un sixième sens. Il va utiliser ses cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième. Je ne crois pas en la lecture de pensée, je ne crois pas en ces choses-là, évidemment. Je ne suis pas un médium, je ne suis pas un expert du comportement, je ne suis pas un sociologue non plus. Je suis un homme de spectacle et j'essaie de créer les spectacles les plus divertissants possibles.
Statistiquement, ça reste quand même du domaine, pour moi, de l'explicable, vu qu'on n'a qu'une chance sur cinq. Et peut-être que les personnes qui avaient soi-disant des dons avaient tout simplement eu une chance statistique de pouvoir deviner plusieurs fois à la suite un symbole, mais on n'a jamais pu prouver que quelqu'un avait des dons télépathiques grâce à ces cartes. Moi, dès que le champ des possibles est réduit, j'ai l'impression qu'on s'expose déjà à un biais dans l'expérience qui, voilà, si on met quelqu'un face à quatre choses à deviner, ça serait pas extraordinaire qu'il arrive à les deviner toutes les quatre.
C'est quoi la chose la plus improbable que je peux deviner sur toi ?
Le prénom de ma mère.
Alors vas-y, imagine ta mère devant toi comme si elle était là.
Ouais.
Ok, elle est blonde ?
Ouais,
peu clair, ouais, ok.
Elle est blonde.
Est-ce que tu pourrais imaginer que tu crées son prénom ?
Ouais.
Ouais, ok. Super, tu joues bien le jeu, c'est super, t'as contacté les lèvres. T'as aussi bougé un peu au niveau de ta main droite, donc je pense que c'est un prénom assez long. T'as mis comme s'il y avait plusieurs syllabes, donc... Ok, imagine le prénom entre mes deux mains. Ouais, c'est vraiment presque trois syllabes, mais c'est vraiment très long. Ça finit par un E.
Oui.
Le mentalisme et le mentaliste utilisent ce qu'on appelle des biais de perception. C'est-à-dire que le cerveau interprète en permanence ce qui se passe dans son environnement, pas de façon forcément objective, justement, parce que justement il y a des cycles et on n'est peut-être pas forcément attentif tout le temps. Et donc nous, on sait que le cerveau peut ne pas être focalisé à certains instants et reconstruire la réalité pour se conformer à ses attentes ou à ses croyances. Et donc nous, on utilise cette façon de fonctionner de l'être humain qui omet beaucoup de choses dans son raisonnement ou qui lie des choses entre elles qui ne sont pas forcément alliées ou liables et qui font croire qu'en bout de course, on est capable de faire certaines choses.
Tu auras simplement besoin d'une feuille et d'un stylo, de préférence un feutre ou autre, ou même un crayon, ça peut très bien faire l'affaire. Tu vas expliquer à la personne à qui tu vas faire le tour que tu vas lui demander de choisir parmi 5 symboles. Les 5 symboles, je te les ai dessinés juste ici. T'es pas obligé de les dessiner, tu peux simplement lui demander de lui expliquer. Il y a un rond, une croix, des vagues, un carré et une étoile. Si t'es pas familier avec les vagues, tu peux les remplacer par un triangle, ça marchera très bien aussi.
Donc je suis arrivée dans la salle, et au début de la salle, il y a une dame qui vient vous voir et qui vous donne des petits papiers. Et elle dit, vous dessinez un objet dessus et vous le glissez dans ce livre, dans ce dictionnaire. Et à un moment donné dans le spectacle, le dictionnaire apparaît sur scène et lui, il regarde le dictionnaire. Il vous fait monter sur scène, oui, il m'a fait monter sur scène. Et il me dit, alors sur votre papier, vous avez dessiné ça sous telle forme, à tel endroit de la feuille et tout et tout. Et c'était exactement.
Tu vois les 5 symboles, tu vas en choisir un, celui que tu veux. Ok, t'en choisis un. Et maintenant que tu l'as, si t'étais réellement en face de moi, je t'aurais passé le bloc-notes et je t'aurais demandé de dessiner en gros le symbole que tu avais en tête. Par exemple, si t'avais choisi un carré, tu dessines un carré.
Il est doué, hein, parce que pour connaître un peu les tours, parce que mon fils en fait, les manipulations sont magnifiques, quoi, hein, vraiment. Après, voilà, il faut venir ici avec des yeux d'enfant, hein, faut pas essayer de chercher et de comprendre les choses, en fait, il faut le vivre comme un enfant. La magie, c'est ça. Hein.
Et une fois que t'as la première lettre, c'est quand même assez cool. Alors, ce que tu pourrais faire ensuite pour avoir les autres lettres du prénom, c'est refaire le même principe. Sauf qu'au bout d'un moment, tu comprends que si le prénom il a 8 lettres, ça va être très long à chaque fois de redemander, de réciter l'alphabet doucement, etc. Donc, c'est bien pour la première lettre. Et déjà, ça élimine beaucoup de gens. Si la lettre sur laquelle tu tombes est un P et qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Pierre qui commence par un P, en fait, donc tu vas forcément trouver que c'est lui. Maintenant, si tu as plusieurs prénoms qui commencent par un P dans la soirée, c'est là qu'il va falloir que tu utilises cette deuxième qui va te permettre de séparer en fait les gens. Donc, admettons que deux personnes aient un prénom qui commence par la même lettre dans la soirée. Du coup, tu sais pas lequel c'est des deux. Et là, tu vas utiliser une méthode que je trouve assez drôle. Tu prends un papier, tu prends un crayon, et tu vas écrire l'un des deux prénoms sur le papier. Une fois que c'est bon, tu vas dire à la personne, je pense que la personne à laquelle tu penses est... Et là, tu dis le prénom de l'autre personne, celle que tu n'as pas écrit. Et là, elle va te regarder, et si c'est le cas, elle va dire oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de lui montrer, tu dis ok, c'est ce que j'ai écrit, tu ranges le papier. Et si c'est pas le cas, tu lui dis c'est vrai, c'était l'autre, donc c'est qui? Elle te dit l'autre prénom, tu dis oui, je le savais, et c'est ce que tu avais écrit. On est bon. Tu vas dans tous les cas pouvoir t'en sortir s'il n'y a que deux prénoms. Maintenant, s'il y a trois personnes qui ont un prénom qui commence par la même lettre, change de soirée.
J'invite une femme à venir s'installer à une table et je lui demande d'abord de penser à quelqu'un qui lui est cher, une personne que je ne peux pas connaître et qui n'est pas présente ce soir dans la salle. Elle place respectivement main gauche et main droite sur les bords de la table et puis on va placer une fausse main gauche en latex au milieu dans le prolongement de son bras gauche. Alors c'est très intéressant parce qu'on a maintenant trois mains sur la table. On place un intercalaire vertical entre la vraie main gauche et la fausse main gauche. Alors, elle ne peut plus voir sa vraie main gauche. Je lui demande de se focaliser uniquement sur la fausse. Et les spectateurs sont toujours dans la vision de trois mains, de vraie, une fausse. Je prends alors deux grands pinceaux de peintre et je m'amuse à peindre simultanément les mêmes zones de la vraie et de la fausse main gauche. Alors, elle sent le toucher du pinceau sur une main qu'elle ne voit plus. Et elle voit le toucher du pinceau sur une main qui n'est absolument pas reliée à elle, qui est une main plastique.
Salut, en fait je suis mentaliste et je t'ai observé. Ça te dit que je te dis ce que j'ai déduit sur toi?
Vas-y.
T'as un chat, non?
Comment tu fais?
Bah parce que je suis mentaliste. T'as une sœur aussi?
Ouais.
Et un frère?
C'est ça.
Ouais.
J'ai choisi une des cinq formes. Je suis en face de toi, tu me demandes de la dessiner et je la dessine. J'ai dessiné ma forme, tu me regardes et là je pense que tu sais déjà quelle est la forme que j'ai choisie. Ouais, j'ai bien choisi les vagues.
Et très vite, le cerveau est capable de fusionner ces deux actions en une seule. Pour moi, le cerveau est un outil assez intéressant parce que il n'est pas capable de faire la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. C'est-à-dire que le fait même de voir votre main ou de l'imaginer, c'est exactement la même zone dans votre cerveau qui est stimulée. Alors très vite, ces deux actions fusionnent. J'arrête de caresser la vraie main gauche, elle ne le sait absolument pas. Tout le public en est témoin, et elle est toujours capable de nous décrire exactement à quel endroit je touche, alors que je ne touche que la fausse main, en fait.
Donc l'astuce, c'est d'écouter. Il se pourrait que les 5 formes que je t'ai données aient une caractéristique très spéciale. Chacune des formes dans l'ordre dans lesquelles je te les ai données se dessine à chaque fois avec un trait supplémentaire. Le rond, c'est un seul trait, la croix, 2 traits, la vague, 3 traits, le carré, 4 traits, et l'étoile, 5 traits. Ce qui veut dire que si tu entends le nombre de traits que dessine la personne, tu sais forcément quel dessin elle a choisi. Alors, on prend déjà des personnes sur lesquelles on a des informations, hein, je prends pas n'importe qui dans la rue, et une fois que j'ai quelqu'un sur qui j'ai quelques infos, par exemple, on voit un petit poil de chat sur son pull, on va essayer de faire ce qu'on appelle de l'effet Barnum. Donc on y va, c'est un peu ce que font les horoscopes avec vous. Quand on lit un horoscope, on a l'impression que ça nous parle. En fait, c'est des informations très vagues, mais qui paraissent précises. Et quand je fais ça, mixé avec des observations, la première astuce que je peux te donner, c'est de mettre de la distance entre toi et la personne qui va faire le dessin. T'inquiète que t'entendras toujours le bruit du marqueur. Alors si c'est un crayon, tu peux l'entendre, mais c'est déjà plus subtil, donc essaye de te mettre un peu moins loin. Mais ça m'amène donc à la deuxième astuce. Tu n'as pas besoin de regarder la personne pour entendre le bruit du marqueur. Donc t'as juste à te tourner comme ça, te dire vas-y, je regarde pas, dessine ce que tu veux. Non mon pote, t'inquiète que je regarde pas, mais j'entends tout ce que tu fais. Donc tu te mets loin et tu ne regardes pas la personne, ça enlève toute supposition que tu vas être en train d'écouter ce que la personne fait.
Nous sommes un petit peu tous des experts sans le savoir. C'est-à-dire que tous les jours, dans nos relations sociales, on a des interactions et 90% de ce que nous disons, ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est une étude, ne passe pas par les mots, mais passe par le corps. Donc en fait, votre corps en dit plus que vous-même. Et la personne qui est en face de vous va décrypter tout ça de manière presque inconsciente et va faire en sorte va avoir un sentiment pour vous. Par exemple, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi. Bah, en fait, c'est parce que vous avez interprété son langage comme quelque chose de positif. Et ce qui est bien, c'est que la personne... Comme vous avez interprété ça de manière positive, vous allez renvoyer des choses positives aussi. Et le coup de foudre risque d'être réciproque. Oui. C'est pareil pour les coups de foudre inversés. C'est-à-dire que des fois, on rencontre quelqu'un, on ne le connaît pas, on ne le supporte pas la première seconde. On se dit, qu'est-ce que c'est que cet imbécile? Pourtant, il n'a même pas parlé, rien. Et bien, il y a de grandes chances que ça soit réciproque et cette personne ne vous aime pas non plus.
Là, vous avez un exemple type donc, de télépathie de musical où une personne est sur scène, c'est la médium, et il y a son assistant qui... En déambulant dans la salle, va poser des questions aux gens et là, cette personne-là va révéler quel est le prénom de la personne ou si elle a une pièce d'or dans sa main, quelle est la date sur la pièce d'or ou si elle a une carte d'identité qui date de 1945. Les informations sont très précises, on a l'impression de télépathie. Or, si vous analysez les faits avec objectivité et si vous réfléchissez en interprétant les choses, on va dire plus crûment, vous vous rendez compte quand même que la personne qui prend les objets en main, elle a ses yeux, elle a sa capacité de toucher. Elle est proche de l'objet, et donc l'assistant du médium, eh ben, il est en mesure, lui, de transmettre de l'information. C'est-à-dire que, alors, c'est comme si je vais révéler un grand secret de la télépathie, mais il y a des façons de dire deux choses en même temps, tout en disant apparemment une seule chose. Je peux très bien dire « Madame la voyante, êtes-vous prête ?» Et en, juste en posant cette question, elle sait que je vais lui poser une question qui a trait, par exemple, à un portefeuille. Mais parce que c'est un code.
Il disait le mentalisme, c'est écouter l'autre lorsqu'il ne parle pas. Et en fait, on ne s'écoute pas les uns les autres. Il me disait tout le temps ça. Il disait, on attend juste notre tour pour parler. Alors, si tu attends, tu commences déjà à être un petit peu mentaliste parce que tu n'as pas besoin de deviner les pensées des autres, ils te diront tout.
Alors, après, il y a des gens qui ont érigé cet art du code, justement, un haut rang d'art, et ça devient tellement puissant à la fin qu'on se dit, c'est pas possible que ce soit un code. Parce qu'il y avait, voilà, il y a eu Rémi Rosca à une époque en France qui était très connu dans les années 50-60, qui, par très très grande habileté et par pour moi une force incroyable de perception, arrive à faire passer des choses entre eux sans que cela ne se sente. Mais il y a forcément un émetteur et un récepteur.
Un mentaliste, c'est une personne qui travaille, développe, enseigne les capacités, comment optimiser les capacités mentales, que ce soit du côté cognitif, communication, mémoire, logique, mais aussi observation, hyper-observation, comme on voit dans le film Le Mentaliste, dans la série, et aussi tout ce qui est anticipation, travail de communication mentale. Donc c'est assez large. Globalement, c'est tout ce que les capacités humaines, mentales, recèlent. On verra que l'instinct, qui est caractéristique souvent des animaux, fait partie, bien entendu, l'intuition. Instinct, intuition, c'est la même chose. Des capacités mentalistes numéro un, je dirais. Beaucoup de capacités n'étant que des béquilles pour retrouver ce naturel.
La première base, c'est de savoir ce qu'une personne souhaite. Et si vous pouvez lui donner, et si vous pouvez lui faire comprendre que vous allez lui donner, mais vous pouvez ensuite disposer de cette personne comme vous voulez. Bon.
C'est une ampoule qui fonctionne au courant alternatif, à une fréquence de 50 Hz. Et donc, elle ne reste pas allumée en continu. On a l'illusion d'un éclairage continu, mais elle s'allume et elle s'éteint 50 fois par seconde. Et on n'est pas capable de voir ça parce que l'œil n'est pas capable de s'adapter à cette fréquence particulière. Et puis après, il y a d'autres phénomènes. Le fait que le filament reste chaud, il y a la persistance rétinienne. L'onde préside toujours à la forme. C'est ce qui, pour moi, est très intéressant dans ce spectacle.
Je ne parlerai pas d'art divinatoire, justement. J'essaie de faire en sorte qu'on ne puisse pas se dire qu'on est chez Madame Soleil ou chez Elisabeth Tessier ou je ne sais pas où, mais qu'on manipule plutôt le langage et que c'est en utilisant le langage qu'on modifie la perception que les spectateurs ont de la réalité. C'est beaucoup moins de choses sur l'art oratoire.
C'est plus proche de la manipulation, je dirais, que de la divination. Parce qu'il essaye vraiment de trouver ce que vous pensez, mais pas en devinant qui vous êtes, en vous posant des questions. Vous ne lui dites absolument rien. Et lui, en vous voyant, en vous regardant, en se connectant à votre cerveau, et en vous manipulant, parce qu'il vous amène, lui, avec son cerveau. Je ne sais pas comment il fait, hein, vraiment.
Après ça, alors, je vais vous demander quelle est la couleur des cheveux de monsieur.
Auburn.
Auburn, de quelle teinte?
Moi.
Auburn noir, c'est bien exact. Mais quelle est sa taille? Quel est son âge?
Entre 18 et 62.
Oui, c'est exact. Mais est-ce que vous pouvez préciser davantage?
Et pourquoi faire? Ça change tous les...
Je te confie une pièce de monnaie. Tu la mets dans n'importe laquelle de tes deux mains. Tu mélanges dans ton dos. Je regarde pas. Et quand t'es prêt, tu tends les deux mains vers moi. Comme ça, et tu me regardes bien dans les yeux, comme ça, ok, ça c'est pas mal.
Il s'appelait Daniel Miraskil, c'était quelqu'un d'incroyable. Je l'ai rencontré quand j'avais une douzaine d'années dans un stage de magie, comme ça. J'ai attrapé un peu le virus, et puis il m'a choisi comme élève, je l'ai choisi comme maître, il a choisi mon nom. Tout ça se faisait comme au 19e siècle, en fait, tout simplement. Je dis tout simplement alors que c'est plus vraiment le cas, mais j'ai appris mon métier vraiment comme avant. Comme il y a très longtemps, j'ai mis beaucoup de temps avant de monter sur scène, j'ai été assistant, j'ai fait plein de choses. Et il m'a appris énormément de choses, et il m'a surtout appris et donné le goût du mystère et l'envie de raconter des histoires. Parce que l'art de l'illusion, l'art de surprendre, le mentalisme, tout ça, c'est très bluffant. Mais au-delà de ça, moi je m'en sers pour deux choses, pour raconter des histoires de manière très immersive, pour qu'on puisse rentrer vraiment dans un univers, et puis aussi pour essayer de comprendre et de me relier avec les gens qui viennent voir le spectacle, c'est-à-dire leur proposer quelque chose qui va imposer une rupture avec leur réalité. L'illusion, ça permet ça, c'est quelque chose de totalement impossible, arrive dans le monde ordinaire, donc on est dans quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel, dans le domaine du fantastique.
Je réfléchis à quelle technique j'utilise en premier, mais j'ai utilisé la plus courante pour moi et celle qui me plaît le plus, ça s'appelle « the nose know ». Ça veut dire ton nez est au courant des choses et ton nez, il sait les choses.
Ah non.
En gros, là, tu as le visage légèrement désaxé vers cette main-là.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que quand on cache quelque chose, on a tendance comme ça à voir le visage qui va dans la direction. Alors si on prend l'axe du nez, on regarde vers quelle main pointe l'axe du nez, et là, il pointe vers ta main gauche. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. Donc la pièce est là.
On devient mentaliste d'abord parce qu'il y a un inné assez important, des facilités innées, tout simplement. Après, il y a des acquis derrière, et un contexte pour avoir la possibilité de l'exploiter, d'en vivre, et une passion pour ça. Mais cette passion est née du contexte et est née de l'inné de base. J'aime pas dire le mot don, parce que dans ce domaine-là, le mot don prend tout de suite une connotation magique. On dirait quelqu'un a le don pour la danse, le don pour la musique. On n'y voit rien d'étrange, de magique. On dit le don du mentalisme, il a le don de la perception. Tout de suite, ça prend un aspect magique, alors que pas spécialement. C'est simplement une configuration mentale innée qui facilite l'accès à certaines fonctions de communication, de méta-observation, en fait d'observer ce que les autres ne voient pas, les tout petits détails.
Comme je fais un accès à l'information et que l'œil est la seule partie émergée et visible du cerveau, forcément si on cherche quelque chose, il y a des choses qui se passent dans le nerf optique et dans l'œil qui est en train de le chercher, une image qui est soit construite, soit remémorée. Et donc je sais que si elle pense à quelque chose et que ses yeux partent vers le haut, elle va aller chercher une image. Et après si les yeux partent vers le bas, c'est ailleurs. C'est vers d'autres sphères de cognition que je peux aller me référer.
Moi, j'essaie d'établir rapidement une baseline. Donc, c'est le comportement de la personne dans un état normal. Donc, je vais analyser en premier les choses qui sont évidentes. Ta posture, ta façon de me regarder dans les yeux, ta façon de bouger au niveau des mains, s'il y a beaucoup de gestuels.
C'est un spectacle de mentalisme, parce que depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup au mentalisme, après avoir vraiment travaillé sur la magie d'objets, parce que je trouve que ça met les spectateurs à des endroits où ils ne font plus très bien la différence entre croire et savoir. C'est le trouble profond de la magie arrive. Et puis je me suis dit, moi en fait, quand je fais du mentalisme, je donne l'impression que je rentre à l'intérieur du cerveau des spectateurs, que j'ai accès à leurs pensées, leurs souvenirs, mais en fait, ces informations, je les vole à l'insu de mon public, avec des techniques mécaniques.
Le langage verbal, ça va être tous les mots qu'on va utiliser, la façon dont on va parler depuis le départ quand on s'exprime tous les trois. Après, il y a le langage paraverbal, donc là, ça va être tout ce qu'on va mettre autour des mots. Donc l'intonation, le débit, la vitesse à laquelle on parle, le volume aussi. Et après, il y a le langage non-verbal, et là, ça va être la façon dont notre corps s'exprime. Donc les mouvements qu'on va faire, si on parle avec les mains ou pas, si on regarde dans les yeux ou pas, tout ce que notre corps peut relâcher.
Je ne manipule pas les spectateurs, moi je les conduis vers le merveilleux. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et surtout, c'est de mettre en valeur les spectateurs. Vous savez, quand on jette un chapeau dans une salle de 1700 places, que quelqu'un le reçoit, il se dit, mon Dieu, ça tombe sur moi. C'est la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. J'arrive sur scène, on a envie de vivre quelque chose de positif. Alors, du coup, je fais en sorte que la personne vit quelque chose de positif et qu'elle se sente comprise. C'est ça qui est important. Et en fait, deviner les pensées de quelqu'un, on a tous, quelque part, envie que ça marche. C'est-à-dire que ça reprend la seule manipulation, entre guillemets, que je fais, c'est que si la personne sur scène n'a pas envie de jouer le jeu, entre guillemets, ou a envie d'être complètement hermétique, je ne pourrais arriver à rien. Alors, à moi de créer les conditions de quelque chose de positif pour que la personne ait envie que ça fonctionne aussi, qu'elle ait envie de partager ce moment-là, qu'elle ait envie de vivre cette expérience positive pour que ça fonctionne. Et la seule manipulation, elle est là, mais vous voyez, elle est toute douce et elle est gentille. Et ça passe par une arme de destruction massive, la gentillesse.
Alors déjà, dans le mentalisme et la télépathie, il faut qu'on sache quelque chose dans le cadre d'un mentaliste ou de télépathie de spectacle, il y a toujours un truc. C'est-à-dire qu'il y a une façon de prendre l'information, une façon d'être au courant de ce que la personne a peut-être pensé. On restreint le champ des possibles quand on leur demande de penser à certaines choses. Mais ensuite, à un moment donné, on va être obligé d'aller prendre l'information. Ensuite, la façon dont moi je vais restituer l'information, c'est là où se trouve l'art du mentaliste. C'est-à-dire qu'une fois que je sais quelle est l'information, une fois que je l'ai apprise, c'est comment je vais l'enrober dans la façon dont je vais la restituer qui va faire croire que j'ai un don de télépathe.
Là, on passe à la deuxième technique. Celle-ci, elle me plaît particulièrement. C'est la technique de la résistance musculaire. Okay. Tu prends cette pièce, tu la mets dans une de tes deux mains et tu mélanges dans ton dos, évidemment. Et après, tu tends les poings vers moi quand c'est fait. Donc là, ton visage, on a pu assifier. Je vais juste appuyer et te dire que la pièce est de plus en plus lourde. Elle est de plus en plus lourde, elle est de plus en plus lourde, elle est de plus en plus lourde. Et plus je dis qu'elle est lourde, plus ton cerveau y croit qu'elle est lourde. Et du coup, il y a un bras qui résiste plus que l'autre. C'est celui-là.
Oh, non, mais c'est pas possible.
Il est sûr et certain que dans le spectacle, ce à quoi vous prêtez attention devient conscient. Et si vous prêtez attention à autre chose qu'au support des images, d'ailleurs, il n'y en a pas. Puisqu'on projette sur des zones d'ombre ou des zones noires, il n'y a pas d'écran visible. Donc c'est d'autant plus intéressant pour moi de voir à quel moment vous pouvez percevoir ou pas ces images et dans quelle mesure elles peuvent m'aider dans mes expériences.
C'est le soir, il faut lire des histoires. Alors mon fils veut un livre et puis ma fille en veut un autre, forcément. Et puis on a le temps que d'une seule histoire. Alors ce que je fais, c'est que pour que tout le monde ait le choix, je demande à mon fils de choisir 5 ou 6 livres. dans lequel il aimerait avoir une histoire, et puis ma fille va choisir parmi ces 5 ou 6. Ce qui fait qu'en fait, ma fille a choisi et mon fils a choisi aussi. Et ma fille, elle n'a pas réellement choisi, elle a choisi dans quelque chose de plus restreint. C'est comme si on vous mettait en fait plusieurs personnes et puis on devait voter, et puis après, il n'y en a plus que 2, puis après, vous devez voter pour les 2, pour l'un des 2. Vous choisissez dans ce qu'on vous impose, en fait, un peu aussi.
Qu'est-ce que la réalité ? Je crois qu'aujourd'hui, aucun physicien n'est capable de répondre très clairement à cette question. Il n'y a pas de grande réponse. On a bâti toute notre science pendant des années sur le fait que la Terre était plate. On en était sûr et certain. Après, on nous a dit qu'elle était ronde. Aujourd'hui, on nous dit qu'elle est un petit peu ovoïde, comme un œuf. De quoi sommes-nous vraiment sûrs aujourd'hui dont on sera sûr demain ? Voilà. Quelles sont vos vraies certitudes ?
La troisième méthode, c'est la plus longue à faire, mais c'est la plus safe. Un enfant de 5 ans y arriverait. Là, je vais devoir ne pas te regarder. Tu mets la pièce dans une de tes deux mains et ensuite, tu vas la magnétiser en la plaçant comme ceci sur ton front. En gros, il faut rester au moins 15 secondes comme ça. C'est parce que ton cerveau magnétise la pièce. Et je vais me retourner dans 3 secondes. Juste avant de me retourner, je te le dirai. Et toi, tu tendras évidemment les deux mains vers moi. Ok. Là, tu peux tendre les deux mains vers moi. Et maintenant, je me retourne dans 3, 2, 1. Maintenant. Et là, j'ai juste à regarder un petit peu les deux mains. Et celle-ci, forcément, il y a la pièce.
Non, c'est pas dedans.
Hein ?
Si, c'est dedans. C'est pas possible.
Expérience numéro 3. Calibration des décisions. Sors le dé du sac. Prends le dé entre tes deux mains. Fais rouler le dé entre tes deux mains. Quand tu le souhaites, tu mets la main à plat et sans me la montrer, tu regardes la face supérieure du dé. Tu la vois ?
Oui.
Comment t'appelles-tu ?
Yann.
Quel âge as-tu ?
36.
À quel étage habites-tu ?
Rez-de-chaussée.
Quelle est ta taille ?
1,75.
Quelle est la pointure de tes chaussures ?
42.
7-5, 2, 42, 2 moins... Tu regardes la face numéro 2, c'est cela ?
Oui.
Je ne parlerai pas de tour, mais d'expérience. En magie, un tour ne peut pas rater dès l'instant où il est exécuté parfaitement.
Reprends le dé entre tes deux mains, fais-le rouler à nouveau, et quand tu le souhaites, mets la main à plat et regarde la face supérieure du dé, sans me la montrer. Tu la vois ?
Oui.
Combien as-tu d'enfants à charge ?
2.
Quelle est la surface de ton habitation ?
Une petite centaine.
As-tu une résidence secondaire ?
Non.
Combien as-tu de cartes bancaires ?
Une seule.
Une seule. Une... Tu regardes la face numéro 1, c'est cela ?
Oui.
Je vous explique quand même ce qui s'est passé pour cette nouvelle technique. C'est qu'en faisant ça, le sang est redescendu dans ton bras. Il n'arrive plus à circuler. Et quand tu as mis les deux mains à plat, tu as une main qui est clairement plus claire que l'autre. C'est celle où il y a eu le moins de sang, en fait. Et après, j'avoue, j'ai appuyé un peu pour la résistance musculaire au cas où. Parce que...
Très bien, on va le faire une dernière fois. Tu fais rouler le dé entre tes deux mains. Quand tu le souhaites, mets la main à plat et regarde la face supérieure du dé. La voix ?
Oui.
De combien de personnes se compose ton foyer ?
3.
As-tu des frères et sœurs ?
Non.
Et à quel étage habites-tu ?
Rez-de-chaussée.
Tu regardes la face numéro 3 ?
Non.
Ton foyer se compose de 3 personnes et tu regardes pas la face numéro 3 ?
Ah non, non, c'est la 5.
C'est impossible, tu mens, prends-moi le dé.
Il peut y avoir une part qui est vraiment liée à la participation du spectateur. Et selon sa fragilité, sa sensibilité, on aura plus ou moins de bons résultats dans l'expérience. Il y a d'ailleurs des choses qu'ils ne réussissent absolument pas, et je l'annonce tout de suite, tout ne peut pas réussir.
Est-ce que tu peux penser à une lettre au milieu du nom ?
Ouais.
C'est un dé ?
Non, impossible, j'ai juste un dé.
C'est vrai ? Alors attends, du coup, avec tout ça, ta mère, elle a à peu près 50 ans, j'imagine ?
Exactement, elle a eu 50 ans, c'est vrai ? Le 24 juin.
Est-ce que tu peux me dire, haut et fort, Noël, le prénom de ta mère, s'il te plaît ?
Claudine.
Bah c'est exactement ce que j'ai marqué.
Non, je te crois pas. Montre-moi, je te crois pas.
Ok, en vrai j'avais marqué Claudine.
Mais quel talent !
Dédicace à Claudine ?
Oui, on t'aime Claudine !
Déjà dans ma tête c'est plus du spectacle.
Ouais.
Dans ma tête il y a de l'influence, ouais. Pouvoir passer des idées, deviner ce que pense la personne. C'est une forme de, je sais pas, j'ai un peu l'hybride entre magicien et justement une dimension plus psychologique du magicien, quoi, je sais pas.
J'ai avec moi un Rubik's Cube, ce qui n'a rien à voir avec le bluff actuel. C'est un objet pour te concentrer
okay.
dans l'esprit, ok ? Donc tu le mélanges pendant que je te parle.
Okay. Okay.
Imagine que tu es chez toi. C'est un chez toi qui existe déjà ou c'est un chez toi que tu viens d'imaginer. Mais en okay. tout cas, qu'il y ait un étage ou pas, sache que tu es au rez-de-chaussée et tu attrapes une pièce de mobilier.
Okay.
Tu l'imagines dans ta tête, ouais. pièce de mobilier, tu es en train de la toucher là vraiment.
Ouais.
Et c'est exactement, précisément, un fauteuil.
Oui. Je pense que vous, vous étiez sur une chaise pour la plupart. Et je me suis dit, toi, ça fonctionne un peu différemment. Donc forcément, tu vas être sur un fauteuil.
Très stylé, gars. Moi, je me suis dit, justement, je prends un fauteuil comme ça, le gars ne saura pas précisément.
L'un de mes objectifs, c'est que lorsque les spectateurs sortent de ce spectacle, ils se sentent bien, remplis de choses positives, qu'ils se disent qu'effectivement tout est possible, qu'ils se disent qu'ils maîtrisent leur destin, qu'ils peuvent choisir qui ils sont, ce qu'ils font. Et puis c'est toujours important aussi qu'un spectacle nous change un peu. C'est ce que j'attends d'un livre, c'est ce que j'attends d'une musique, c'est ce que j'attends d'un film, c'est ce que j'attends d'une pièce, d'un spectacle, c'est de ressortir un petit peu différent. Alors si j'arrive à le faire un peu, ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà beaucoup pour moi.